Bienvenue à toutes et à tous pour ce Café Psy qui se tient au Gazette Café à Montpellier. Aujourd'hui, le thème de l'émission, l'hypnose. Alors, l'origine de l'hypnose et des phénomènes hypnotiques se perd dans la nuit des temps, de la Chine à l'Inde, en passant par l'Égypte pharaonique. On retrouve effectivement des écrits datant des anciennes civilisations comme celle des Sumériens, des Grecs, des Romains ou encore des druides. L'hypnose se pratiquait aussi et se pratique toujours à travers les techniques millénaires du yoga et dans la méditation orientale. C'est officiellement au XVIIIe siècle que l'hypnose devient expérimentale. On l'étudie scientifiquement et c'est de cette hypnose dont nous allons vous parler ce soir. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont ses effets thérapeutiques? Quelle est son efficacité, ses risques et ses limites? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec Christophe Chaumet, hypnothérapeute. Christophe Chaumet, bonjour.
Bonjour.
Alors, Christophe Chaumet, après une formation initiale en psychologie, vous vous êtes spécialisé dans l'hypnose éricksonienne pour devenir hypnothérapeute. Vous exercez depuis 14 ans et vous avez près de 1000 patients à votre actif. Vous êtes l'auteur du livre « L'hypnothérapie ou la psychothérapie sous hypnose » aux éditions Psy+. Alors Christophe Chaumet, pour débuter cette soirée, quand on parle d'hypnose, cela peut porter à confusion. Ce terme est utilisé dans trois cas de figure bien distincts.
Oui, peut-être même plus encore. Il y a tout d'abord à la base l'état hypnotique. Donc on va parler un peu plus en détail dans quelques instants. Cet état a certaines propriétés qui ont été étudiées scientifiquement depuis le XVIIIe siècle, effectivement, et qui ont donné lieu à des dérivés sémantiques divers, utilisés comme notamment à la place de manipulation, par exemple. On dit qu'on fait de l'hypnose de masse au lieu de faire de la manipulation de masse. Ou bien que quand on est fasciné par quelque chose, on est sous hypnose. Ce sont des utilisations impropres du mot hypnose, mais qui sont néanmoins très courantes. Alors, dans les utilisations propres, il y a bien sûr l'état hypnotique, mais il y a aussi toutes les techniques qui sont utilisées pour conduire quelqu'un dans cet état. Ce que nous, on appelle les inductions. Quand on dit que quelqu'un sait faire de l'hypnose, en général, ça veut dire qu'il sait produire une induction ou induire l'état d'hypnose. Et puis, il y a le troisième sens, effectivement, propre, qui est comment on utilise l'hypnose, ce qu'on en fait. Quand, par exemple, on dit que mon ami Marc a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, c'est une impropriété. Ce n'est pas l'hypnose qui l'a fait arrêter, ce sont les techniques qui ont été utilisées quand il était sous hypnose, qui lui ont permis d'arrêter de fumer. Donc voilà, trois sens propres qui sont mélangés couramment, en plus de tous les sens impropres, les sens figurés et dérivés.
Donc, et ce soir, donc, on parle de l'hypnose en psychothérapie.
Voilà, donc on va parler de l'état hypnotique, pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est, et puis comment on l'utilise en thérapie, donc en hypnothérapie.
Alors, que nous révèlent ces travaux scientifiques qui ont démarré au XVIIIe siècle ?
Alors, l'hypnose a des propriétés, donc l'état hypnotique a des propriétés qui sont notamment de pouvoir accéder à des parties très profondes de l'esprit, qui sont au-delà de la conscience, qui est une partie importante mais superficielle. Et on a découvert que dans cet état, on pouvait agir sur cet inconscient et produire des changements qui permettent ensuite de guérir de troubles qu'on appelait des névroses ou d'autres termes quelconques, et de les de changer.
Comment on peut agir, justement?
Alors, c'est une longue histoire. Comment on peut agir? Eh bien...
Comment ça se passe?
Comment se passe une séance d'hypnose? Comment l'hypnose agit? C'est ça votre question? Bien, alors... Parmi les propriétés de l'hypnose, il y a celle de pouvoir accéder à la mémoire, et je dirais même à toutes les mémoires, parce qu'on a plusieurs sortes de mémoires. La mémoire biographique, la mémoire de sa vie, la mémoire linguistique, la mémoire des gestes, la mémoire émotionnelle, la mémoire à court terme, à long terme, etc. Tas de sortes de mémoires. Et l'hypnose a cette propriété fantastique de pouvoir accéder à ses mémoires et de pouvoir rechercher des choses qui sont très profondes, qu'on croyait oubliées, auxquelles on ne pensait plus depuis des lustres. Mais avec l'hypnose, on peut les retrouver très facilement. Ça, c'est la première propriété très importante. La deuxième propriété très importante, c'est que dans cet état, qui est différent de l'état de veille ou du sommeil, lorsque on vit quelque chose, comme un rêve, si vous voulez, hein, tout le monde a vécu un rêve, hein, quand on vit un rêve sous hypnose, c'est comme s'il était vrai. Et ça agit comme s'il était vrai. Donc ça a les mêmes influences, quasiment, sur notre esprit profond et sur sa structuration et sur son fonctionnement.
On fait appel à l'inconscient dans ce cas-là ?
Tout à fait. L'hypnose permet de travailler avec l'inconscient et c'est son intérêt principal.
Alors, pourtant, le terme hypnose vient du grec et veut dire sommeil. Et vous dites que c'est un état entre veille et sommeil. Donc, on ne dort pas quand on est sous hypnose ?
Non, on ne dort pas. Donc, pour vous faire comprendre, au début des années 2000, à peu près, hein, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites, hein, des IR avec des IRM, des scanners, etc., qui ont permis de montrer que l'hypnose, l'état d'hypnose, hein, est un mode de fonctionnement de notre cerveau, un mode différent de l'état de veille, différent du sommeil, différent du rêve. Dans cet état, pour les mêmes tâches cognitives, notre cerveau ne stimule pas les mêmes zones. Il ne fonctionne pas pareil. Donc, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire l'état de veille. Et ce n'est pas l'état de veille. Hein. On reste conscient. Alors, si cet état existe, si ce mode de fonctionnement existe, c'est qu'il sert à quelque chose. Hein. On ne l'a pas inventé, on ne l'a pas fabriqué, on ne l'a pas mis dans la tête des gens. Il fait partie du fonctionnement normal de tout cerveau humain. Et donc, s'il est là, c'est qu'il sert à quelque chose. Et en fait, il est utilisé plusieurs fois par jour, de façon cyclique, par tout le monde.
C'est-à-dire, dans la journée, on peut être en état d'hypnose naturellement ?
Tout à fait. Non seulement on peut, mais on l'est obligatoirement. C'est une nécessité, comme on doit rêver toutes les nuits. Hein, toutes les nuits, on a des cycles, hein, sommeil profond, sommeil léger, rêve, etc. Ça recommence, hein, toutes les 1h30, 2h, c'est variable. Et bien, dans la journée, notre cerveau fonctionne aussi par cycle. Et on
beaucoup,
passe beaucoup régulièrement.
Beaucoup de fois dans la journée, ça nous a...
Oui, oui, plusieurs fois dans la journée, oui. Ça dépend. D'accord. C'est variable. Hein. Si on est très fatigué, on passe plus souvent dans cet état. C'est probablement un état dans lequel notre cerveau fait une sorte de nettoyage, on suppose. Alors, à quoi ça ressemble ? Eh bien, c'est des moments où on est ailleurs. On se déconnecte, on est dans la lune, on pense à rien.
Vous avez un exemple concret ?
Je suis en train de regarder dans la salle qui est dans l'état d'hypnose. Je ne vois pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Si vous regardez une terrasse de café, vous allez à la Comédie, vous prenez le temps de regarder les gens à tabler une terrasse de café, vous allez voir que les gens qui sont en état de veille ordinaire, il y a toujours un mouvement quelque part. Ils bougent la tête, ils se grattent, ils changent de position, ils tapotent des doigts. Toujours un petit quelque chose qui bouge. Et puis, de temps en temps, vous en allez voir une personne qui est totalement immobile, figée comme une statue. Mais vraiment totalement immobile, le regard fixe, qui regarde rien de spécial.
Dans le vague, le regard dans le vague. En fait.
Voilà, le regard à l'horizon, on voit rien. Les gens passent devant, ça ne voit pas. Hein. Et elle va reprendre ensuite le cours normal de la vie, comme si de rien n'était. Et ça, vous en avez plein. Et tout le monde le fait, absolument tout le monde.
On en a besoin, en fait, peut-être.
Oui, c'est une nécessité. Alors, l'hypnose classique, c'est une hypnose qui est issue du 19e siècle. Début du 20e. À cette époque, on ne connaissait pas tellement le fonctionnement, on ne comprenait pas très bien comment ça marchait, on ne connaissait pas grand-chose de la psychologie, on savait à peine ce que c'était qu'un neurone. Et donc, on avait découvert par hasard certaines techniques d'induction relativement autoritaires, hein, du genre « dormez, je le veux », qui ne marchaient que sur certaines personnes. Et donc, ce qui a fait croire aux gens à cette époque que seules certaines personnes étaient hypnotisables, ce qui est faux. Tout le monde peut rentrer dans l'état d'hypnose volontairement, mais pas forcément de cette manière-là. Des études ont été poursuivies au XXe siècle, hein, notamment avec Milton Erickson, qui était le grand hypnothérapeute du XXe siècle, qui a mis au point des tas de techniques différentes, qui a compris les principes de l'induction hypnotique, qui a compris comment ça marchait, comment on pouvait amener les gens à rentrer dans cet état à la demande.
Donc c'est un outil qui est un petit peu différent de l'hypnose classique. C'est des techniques différentes, pardon ?
Oui, ce sont des techniques différentes au niveau de l'induction, bien sûr, hein, c'est-à-dire la rentrée dans l'état, mais aussi oui. C'est une approche différente de la thérapie. Ça, on va peut-être en parler un peu après.
Vous pouvez définir ce que c'est qu'une induction ?
Une induction, c'est quand un thérapeute aide un patient, guide un patient pour rentrer dans l'état d'hypnose. Il fait la transition entre l'état de veille et l'état d'hypnose.
Alors, on a l'image, souvent, du thérapeute qui sort sa montre à gousset, imprime un mouvement régulier de balancier à la montre, le patient suit du regard ce mouvement et oups, il est hypnotisé. Comment ça se déroule ? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? Est-ce que le thérapeute nous fait rentrer sous hypnose de cette façon ?
Pas du tout. Absolument pas. Ça, on peut le faire quand on fait du spectacle, par exemple. Hein. Ça, vous avez certainement vu des spectacles d'hypnose. Il y a des tas de façons d'induire l'hypnose de façon plus ou moins rapide. Mais en cabinet, je ne fais pas du tout ça. Hein. Non, c'est je guide la personne dans un processus mental. Hein. Si vous voulez, en quelques mots, je demande à la personne de se concentrer, par exemple, soit sur une image, soit sur ses sensations intérieures. Et puis, en même temps que la personne se concentre et focalise son attention sur quelque chose d'extrêmement réduit, je fais des suggestions, comme quoi elle va rentrer dans un état différent, que son esprit va changer, de mode de fonctionnement. Ensuite, je la guide dans une rêverie aussi, ça c'est bien.
Quand vous dites vous la guidez, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire vous lui parlez ?
Ah, je lui parle en permanence. Je parle en permanence pendant l'adduction.
Qu'est-ce qui est important pour entrer sous hypnose ? C'est la voix, le regard ? Parce que le patient doit fixer un point ?
Non, le regard n'est pas important, c'est une des techniques parmi d'autres. Ce qui est plus important, c'est effectivement la voix. Mais la voix n'est qu'un support. Ce qui compte vraiment, c'est le contenu de ce qu'on dit.
Hein ? Le contenu ?
Absolument.
Alors, ça voulait dire quoi par là ?
C'est-à-dire que je demande aux personnes, de façon indirecte, de faire des choses dans leur esprit. De se concentrer, par exemple. Je vous demande de vous concentrer sur votre pied droit, de ressentir les orteils de votre pied droit. Voilà, vous le faites, c'est très bien. Et c'est ce genre de choses. Voilà. La personne fait quelque chose. Et elle est constamment guidée à faire quelque chose dans son esprit. Et ces choses qu'elle fait vont l'amener progressivement à se couper de l'environnement. Elle va oublier où elle est, elle va oublier ce qu'il y a autour, elle va juste être focalisée sur ce que je lui demande, hein, sur son monde intérieur. Et c'est ça qui est important, sur son esprit, son propre esprit et sur son fonctionnement.
Et que se passe-t-il à ce moment-là ? Elle se focalise, la personne se focalise sur un point, donc sur son
pied. Ça, c'est tout le début. Hein.
C'est au début, d'accord. Elle se focalise là-dessus, mais l'objectif, c'est quoi ? C'est que des images lui apparaissent ?
Non, pas du tout. Non, c'est vraiment de rentrer dans un mode de fonctionnement différent, hein, dans l'hypnose, qui est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, lorsque vous restez longtemps sans rien faire, vous allez spontanément rentrer dans l'état d'hypnose. En cabinet, on ne peut pas attendre comme ça 2 heures que la personne rentre toute seule en état d'hypnose. On accélère le processus en guidant le fonctionnement de l'esprit.
Alors, vous dites que le regard et la voix, ça a moins d'importance. Pourtant, on imagine que la voix, c'est une voix plutôt douce.
Bien sûr. Évidemment.
Est-ce que votre voix, c'est cette voix avec...
Non, pas du tout. Ma voix change.
Vous changez votre voix.
Évidemment.
Donne quoi ?
Ah. Il faudrait que je fasse une induction. C'est tellement naturel chez moi que je ne sais plus le faire comme ça. Mais ça devient une voix douce, calme, je parle lentement, je suis en synchronisation avec la personne, je me synchronise sur sa respiration, sur ses réactions,
L'objectif,
je parle
c'est
doucement,
d'apaiser la
lentement,
personne.
pas forcément, mais de la focaliser sur son fonctionnement intérieur.
Alors une fois qu'elle est...
c'est plus facile quand on est détendu que quand on est stressé. Hein.
C'est sûr.
Voilà.
C'est sûr. Alors, une fois qu'elle est focalisée, qu'est-ce qui se passe, justement, cette personne qui est concentrée sur un point, sur son pied ?
Donc, ça prend un certain temps, quand même. Hein. Ça ne se fait pas en quelques secondes.
C'est-à-dire ?
Quoique, on peut... Bon, enfin, bref.
Quoique, oui.
Quoique on peut le faire en quelques secondes, mais ça, c'est les hypnotiseurs de spectacle qui font ça en quelques secondes. Mais au cabinet, je préfère aller plus lentement et que la personne se sente en contrôle, qu'elle contrôle le processus. Elle sent qu'elle n'est pas brusquée, elle n'est pas obligée d'eux, elle le fait volontairement.
Alors, ça, c'est une notion importante que vous êtes en train de souligner, justement. Est-ce que la personne... est-ce que c'est le thérapeute qui contrôle ou c'est la personne qui contrôle ? Parce qu'on a toujours peur de se faire manipuler.
La personne ne perd jamais le contrôle. Jamais. Elle peut revenir à l'état de veille quand elle veut. D'ailleurs, souvent, avec les gens qui sont un peu stressés, qui ont peur, je leur fais faire la démonstration. Je leur demande de revenir à l'état de veille lorsqu'ils le décident. Et ils le font. Ils ouvrent les yeux, ils reviennent. Ils disent, ah tiens, oui, bon, voilà, je peux revenir, je peux contrôler, je peux repartir, revenir quand je veux, donc il n'y a pas de problème.
On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un, de faire quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas le manipuler dans ce sens-là, en lui disant « saute du troisième étage ».
Ça fait partie des mythes de l'hypnose. Eh bien, Erickson, justement, a démontré, dans les années 50-60, que ce n'était pas possible. On ne peut pas demander à quelqu'un sous hypnose de faire quelque chose qu'elle ne voudrait pas faire à l'état de veille. Parce que sous hypnose, on n'est pas une personne différente. On est la même. On a les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes réactions. Ça ne change pas.
Donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un d'autre, par exemple.
Non, si ce n'est pas un assassin, il ne le fera pas.
D'accord.
Si c'est un assassin de la mafia, voilà.
Ça rentre dans son... Ce que vous voulez dire, c'est que ça rentre dans son périmètre de valeurs personnelles.
Les valeurs ne changent pas.
D'accord.
Ce n'est pas parce qu'on est sous hypnose que les valeurs changent. On n'est pas une marionnette manipulée. On reste soi-même.
Et le patient est conscient de son environnement ?
Alors, ça dépend. La plupart du temps, oui. Et c'est mieux qu'il soit conscient. Peut-être pas forcément de l'environnement, mais rester conscient, à l'état de veille, être éveillé. C'est mieux parce que il va pouvoir utiliser des ressources de son conscient, qui est quand même quelque chose de très puissant, pour influer sur son inconscient, puisqu'il faut qu'il change. Il faut bien comprendre que le thérapeute ne peut pas rentrer dans la tête de la personne. C'est pas possible. Elle ne fait que lui parler. Ce sont que des mots. Des suggestions.
Le thérapeute lui parle et le patient, est-ce qu'il répond ?
Alors, est-ce qu'il peut répondre ? Bien sûr qu'il peut répondre, de différentes façons. Certains peuvent parler dans l'état d'hypnose, parfois avec une voix différente de l'état de veille, ce qui est assez surprenant. Ou bien, quand c'est un peu trop difficile de parler, ou ça les oblige à ressortir un peu trop de l'état d'hypnose, on peut le faire avec des petits signaux, du genre lever la main ou bouger un doigt. Comme ça, on établit des signaux oui-non et on peut poser des questions et la personne peut répondre. Alors, elle peut le répondre soit consciemment et volontairement, mais on peut aussi demander à l'inconscient de répondre directement sans passer par la conscience. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant.
Ça donne
et
quoi ?
Beaucoup plus surprenant.
Ça donne quoi ? Vous avez des exemples ?
Des exemples, j'en ai des centaines, oui, effectivement. Mais bon, que vous dire ? Je demande à l'inconscient de choisir des signaux pour répondre par oui ou non, et à la personne de choisir d'autres signaux pour répondre consciemment. Lorsqu'elle veut répondre volontairement, par exemple, elle utilise la tête pour faire oui ou non, mais quand c'est l'inconscient, je vais lui demander d'utiliser les doigts, par exemple. Et donc, je pose une question à la personne, ou à son inconscient, et je vois le doigt qui bouge. Mais je sais quand c'est un vrai signal inconscient d'un signal conscient. Parce que les mouvements inconscients sont très différents des mouvements conscients. Ils sont beaucoup plus lents, ils sont saccadés, ils sont bizarres.
Et le corps réagit quand vous travaillez sous hypnose, c'est-à-dire...
Oui, bien sûr qu'il réagit. Le corps est constamment en contact avec notre esprit. Et lorsque l'on dort, on n'a plus de conscience. Mais notre inconscient fonctionne toujours et il nous fait bouger. On s'endort dans une position, on se réveille dans une autre. Et c'est nous-mêmes qui avons bougé, c'est notre inconscient qui nous a fait bouger. Des fois, quand on rêve et qu'on a des rêves un peu intenses, on peut se mettre à bouger aussi. Et la conscience n'est pas vraiment là. C'est notre inconscient qui nous fait bouger. Donc, l'inconscient peut actionner n'importe quel muscle et faire n'importe quel mouvement.
Alors, revenons à ce qu'on disait, donc le patient, il se concentre pendant un bon petit moment, à peu près, vous avez dit 10 minutes, un quart d'heure, non ?
C'est variable, suivant les gens, il y en a qui partent en 30 secondes, l'autre, il leur faut 20 minutes, mais...
D'accord.
D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde peut rentrer dans l'état d'hypnose, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes aptitudes à le faire rapidement.
Donc tout le monde est hypnotisable,
oui.
Mais avec plus ou moins de facilité.
Avec plus ou moins de facilité, voilà. Là, c'est, par exemple, tous les gens normaux ont des jambes et peuvent courir, Mais tout le monde ne va pas courir le 100 mètres à la même vitesse. Mais c'est pareil. Avec l'hypnose, ça va aller plus ou moins vite, plus ou moins facilement, suivant les personnes.
Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Parce que finalement, dans la journée, on s'hypnotise tout seul? On rentre sous
état de... Oui, parce que ça fait partie de notre fonctionnement normal, d'accord, évidemment. Ça fait partie de nous.
Donc une fois qu'on est en... qu'on rentre sous hypnose, que se passe-t-il? Alors, il y a un travail avec des images? Est-ce que...
Alors, ça dépend. Ça dépend des personnes. Tout le monde n'est pas pareil. Bien au contraire, chaque personne est unique. Mais on a quand même un certain nombre de choses en commun, heureusement. Il y a des personnes qui sont très visuelles et qui peuvent facilement fabriquer des images, et puis d'autres qui le sont moins et qui ont plus de difficultés. À ce moment-là, on travaillera moins avec les images, on travaillera différemment. Mais les
différemment,
images...
Différemment, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Alors, ça va nous amener un peu loin, là.
En quelques mots.
Alors, différemment, eh bien... on va travailler avec des sensations, par exemple, ou avec plus l'auditif, avec les paroles.
D'accord, avec un autre sens, en fait,
tout à fait,
que le visuel.
Mais tout le monde peut faire des images, hein. C'est juste une question de facilité.
Alors, mais si je me mets à la place des sceptiques, oui, je me dis que l'hypnose peut avoir simplement un effet placebo, parce que comment ça se fait que, justement, ces images ou ces sens peuvent traiter des problèmes?
Mais ce n'est pas n'importe quelle image. Bien sûr, ce sont des images que le patient se crée en fonction du problème qui est à traiter. Il faut bien voir que quand on fait une thérapie, on ne va pas au hasard, on ne fait pas n'importe quoi, il y a une stratégie. On part d'un problème, on part d'une situation donnée, un moment T, au moment où le patient vient voir le thérapeute, on fait un bilan pour comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer. Le thérapeute élabore une stratégie. Et ensuite, on va travailler sur ce qui est dans l'esprit de la personne. Hein, moi, le thérapeute, il ne le sait pas forcément. Hein, il ne le sait pas du tout, il ne sait pas grand-chose. Donc, on va interroger l'inconscient pour savoir ce qu'il y a. Je peux vous donner un exemple. Ce matin même, voilà, j'avais une patiente qui était venue me voir parce que bon, elle a des problèmes physiques, mais les médecins lui disent que ça doit être d'origine psychologique. Mais elle n'en sait rien du tout. Donc elle vient me voir, je la mets sous l'état d'hypnose, on va avoir beaucoup longtemps discuté, je demande à son inconscient s'il sait d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui trouble son inconscient, qu'est-ce qui provoque ce stress, parce qu'apparemment il y a du stress. Et au bout de quelques secondes, une dizaine de secondes, je vois la patiente qui devient toute rouge, qui commence à avoir des larmes, etc. Donc je la réveille et je lui demande qu'est-ce que son inconscient a ramené. Et c'est un sentiment permanent d'incompétence. Bon, très bien.
Elle avait des images à ce moment-là qui lui revenaient ou pas?
Non, pas forcément. C'est une idée qui est revenue. Après, elle est repartie dans l'état d'hypnose et j'ai demandé à son inconscient quelle est la source de ce sentiment d'incompétence. D'où ça vient? C'est pas quelque chose d'inné. Elle ne l'a pas eu à la naissance. C'est arrivé parce que lui est arrivé des choses dans sa vie. Il y a des certains événements qui ont fait qu'elle a acquis cette croyance qu'elle était incompétente. Donc j'ai demandé à son inconscient d'aller chercher ce que c'est. Elle ne le savait pas consciemment. Hein. Je lui ai demandé, elle ne le savait pas. Là, il y a un certain nombre d'images qui sont revenues, de scènes plus exactement. Hein, elle a retrouvé des scènes avec son père quand elle était petite, avec sa mère un peu plus tard, puis encore avec son père, etc., qui l'ont humiliée, dégradée, avilie. Et on a travaillé sur ces scènes. Donc effectivement, ensuite, elle a refait des images. Mais pour transformer ce qu'il y avait dans son esprit. Donc on est parti de ce qu'il y avait dans son esprit, de ses images, et elle les a modifiées.
Elle les a modifiées, c'est-à-dire vous avez changé le schéma ou le fait que l'image arrive, ça résout le problème?
Non, ça ne résout rien.
Alors.
Ça ne résout rien, en fait, une image. Connaître le problème, ce n'est pas avoir la solution. Donc non, je lui ai demandé de... créer une scène, voilà, qui partait du même départ. Hein, par exemple, son père qui engueule la petite fille parce que c'est écorché, elle est tombée, machin. Bon, peu importe, c'est un truc banal, vraiment extrêmement banal. Mais la personne qui a plus de 60 ans maintenant s'en souvient encore. Et quand, sous hypnose, elle y repense, elle s'est mise à pleurer. Hein, donc il y avait une blessure depuis l'enfance. Et Donc elle a changé ça, elle a remplacé son papa par un papa idéal, en quelque sorte, qui est gentil, bon, plein d'amour, qui l'a consolé, qui l'a encouragé, qui lui dit que c'était pas grave, etc. Mais qui l'a pas dégradé, Billy, qui lui a pas dit qu'elle était bête et qu'elle arriverait jamais à rien. Voilà. Donc elle s'est refait une scène comme elle avait envie, je sais pas du tout ce qu'elle a fait, hein. Je lui ai demandé de la refaire en mieux.
En fait, vous l'avez demandé de revivre la scène, mais dans le positif.
Voilà, de la transformer en quelque chose de positif. Et qu'à la fin, elle ressente un sentiment de confiance, d'amour, et etc. Et je lui ai demandé de recommencer plusieurs fois, parce que ça ne s'ancre pas dans l'inconscient comme ça. Mais en recommençant, c'est comme lorsqu'on répète ces tables de multiplication quand on est enfant, force, ça reste. Donc j'ai demandé de répéter ça un certain nombre de fois. Voilà.
Combien de temps
donc,
ça...
Pour terminer, ce faux souvenir, parce que c'est un faux souvenir, hein, c'est pas un vrai souvenir, elle sait parfaitement, il y a la réalité d'un côté, et puis il y a
elle
cette chose.
Elle distingue les deux. Elle distingue
oui,
les
elle peut
deux.
Très bien distinguer, mais ça va cacher l'entre. Hein. C'est comme par exemple, voilà, on a des tableaux sur le mur, mais si ça se trouve, derrière ces tableaux, il y a des grosses taches dégoûtantes. Mais on les voit pas, on s'en moque. Ben, c'est la même chose. Voilà. Ce qui compte, c'est que ce souvenir qui fait partie de sa vie n'agisse plus.
C'est comme si vous mettiez des pansements sur ces blessures ?
Si vous voulez.
Alors, combien de temps ça dure une séance ?
C'est variable, ça dépend, entre 45 minutes et 1h30.
D'accord, vous prenez le temps. Et les enfants sont hypnotisables ?
Très facilement. Très facilement. Moi, je ne travaille pas avec les enfants parce qu'ils vont trop vite.
Trop vite ?
Oui, ils vont trop vite. Ils rentrent très rapidement dans l'état d'hypnose, ils en sortent aussi très vite. Donc c'est un travail un peu spécial. Je préfère y aller plus lentement, tranquillement.
Alors, pour l'hypnose en psychothérapie, on distingue a priori donc quatre champs d'application, les troubles anxieux, la dépression, les addictions et le développement personnel. Donc vous travaillez, vous, sur les troubles anxieux ?
Tout à fait, oui, absolument. Oui.
Comment ça se passe ?
Alors, les troubles anxieux, ce sont les troubles qui sont basés sur la peur. La peur, c'est un mécanisme de défense qui est là pour nous protéger des dangers. C'est un mécanisme très ancien, puisqu'on le retrouve chez tous les mammifères, chez les reptiles, les oiseaux, etc. Donc, c'est des centaines de millions d'années. Et c'est fait pour nous faire réagir face à un danger. Mais nous sommes un peu spéciaux, parce que nous sommes capables de voir des dangers là où il n'y en a pas. Nous sommes capables de les imaginer ou de les rêver. Donc, ça pose problème parfois. Certaines personnes sont extrêmement sensibles à la peur et peuvent produire des peurs qui ont la propriété de rester. Toutes les peurs restent. Une fois que notre inconscient, parce que c'est un travail inconscient, a détecté un danger quelque part, il l'enregistre. En même temps que le contexte, c'est-à-dire le lieu où ça s'est passé. Et ça reste indéfiniment. Tant qu'on ne travaille pas dessus, ça reste. C'est un mécanisme de protection. Il faut bien comprendre que ça a été mis en place par l'évolution et que, à l'origine, c'était pour nous protéger des prédateurs qui étaient les dangers. Donc, quand on voyait un ours, par exemple, il fallait d'une part ne plus bouger pour pas qu'il nous voie, et puis si jamais il nous avait vus, il fallait courir très vite pour essayer de l'éviter ou se battre. Mais l'endroit où on l'avait vu est important parce que c'est peut-être un endroit où il vit ou son territoire de chasse. Donc, ça devient un endroit dangereux. Donc, c'est enregistré aussi. Ce qui fait que maintenant, on ne rencontre plus d'ours ou de loups ou de lions dans les rues, il y a d'autres sources de danger. Et on a tendance à enregistrer l'endroit où ça se passe. Donc, il y a des gens qui font des crises d'angoisse, par exemple, dans un restaurant, ils vont associer le restaurant à la peur. C'est dangereux, un restaurant, ou un ascenseur, ou un cinéma, ou n'importe quel lieu fermé, ça devient un danger. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est automatique.
Et toutes ces peurs, donc, on peut les traiter sous hypnose ?
Oui, heureusement, parce que la nature a été gentille avec nous, elle nous a aussi prévu un mécanisme pour les effacer. Mais c'est un mécanisme qui est assez faible, et donc il faut répéter plusieurs fois le processus, mais ça marche très très bien. C'est un peu le même principe de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On essaie de retrouver l'origine de la peur, parce que ça veut dire, si on a peur de quelque chose, par exemple, prenons une phobie. Les phobies les plus fréquentes que j'ai eu à traiter sont les phobies de la voiture ou de l'autoroute. Parce que c'est quand même le danger number one pour nous, à notre époque. Donc beaucoup de gens se sont fait des frayeurs sur la route. Et certaines personnes, plus sensibles que d'autres, on fait des phobies. Donc on va travailler sur ce souvenir hein, qui est enregistré. Il est enregistré dans une mémoire particulière, hein, de l'amygdale en l'occurrence. Et on va faire en sorte de supprimer la peur. Hein, puisqu'il y a un mécanisme pour le faire, hein, qui s'appelle l'extinction. On va éteindre cette peur. Voilà. Donc en répétant un certain nombre de fois, en changeant les choses, en revivant sous hypnose. Et il n'y a que l'hypnose qui donne ce pouvoir, cette force hein, de changer les choses comme ça, comme si c'était vrai.
Il y a que pour vous, il n'y a que cet outil.
À mon avis, il n'y a que l'hypnose qui est aussi puissant.
Aussi puissant. Oui. Et alors vous dites en répétant plusieurs fois, vous parlez, oui. En répétant plusieurs fois pendant la même séance, combien oui. de séances il faut par exemple pour traiter une peur ?
Pour une phobie, qui est quand même une peur bien délimitée, hein, bien précise, lorsque l'origine de la phobie est connue ou facilement connue rapidement, une seule séance suffit.
Une seule ?
Une seule séance suffit. Parfois, il faut une séance supplémentaire quelques mois plus tard hein, pour consolider, mais en général, une seule séance suffit.
Donc c'est vraiment, l'hypnose, c'est vraiment de la thérapie brève.
Ah, c'est très bref, oui, c'est très rapide. Hein, on cible vraiment le problème là où il se trouve, là où il agit.
Alors, le deuxième champ d'application, on l'a dit, c'est la dépression. Est-ce que l'hypnose agit sur un simple vague à l'âme ou une réelle dépression ?
Non, vraiment sur une réelle dépression. Alors, c'est très différent comme mode d'action, hein, parce que la dépression, c'est le blocage dans un état. Un état dépressif, bon, tout le monde peut avoir un coup de blues, on a perdu un parent, on fait un deuil, on est triste, etc. Mais on s'en sort. Hein, parce que la déprime, en fait, c'est un mécanisme naturel hein, pour faire face à un changement dans notre environnement. Un changement qui peut être brutal, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être la perte d'un emploi.
Suite à un traumatisme.
Par exemple, mm-hmm. hein, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être plein de choses. Hein, ou simplement la perte de ses projets ou de ses projets de vie aussi. Hein. Voilà. Et donc, la personne dépressive se trouve bloquée. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc, avec l'hypnose, on va chercher quel est le processus psychique qui la maintient, qui la bloque, qui l'empêche de faire ce travail normal. Qu'est-ce qui l'empêche ? Souvent, ce sont des croyances ou une situation particulièrement bloquée. Mais souvent, les croyances, hein, que la personne n'est pas capable, qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle ne peut pas y arriver, etc. Donc, on va faire un travail sur les croyances elles-mêmes, hein, les croyances bloquantes, pour les supprimer, et réorienter la personne vers ses capacités réelles, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a déjà fait dans sa vie et ce qu'elle pourra faire dans l'avenir. La réorienter vers l'avenir et lui donner des pistes qu'elle va choisir elle-même. Hein. Ce n'est pas au thérapeute de décider. Hein.
Vous avez eu des cas de dépression, de forte dépression qui
ont occupé au cabinet ? Oui. Je peux vous dire que j'ai vu une femme qui est venue dans mon cabinet et qui m'a dit « Voilà, monsieur Chaumet, je voudrais que vous me permettiez de vivre encore 6 mois parce que mon fils est étudiant. Dans 6 mois, il aura fini ses études et il faut que j'évite de me suicider avant ces 6 mois. » Bon, voilà. C'est quand même assez grave comme dépression, là. Hein, voilà. Donc, à la fin de la thérapie, elle faisait des projets pour sa retraite. Bon.
Ce qui est beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux, oui.
Et là, combien de séances il a fallu pour ce cas-là ?
5, 6, 7, 8, je ne sais plus. Bon, un peu moins de 10.
Un peu moins de 10, ce qui ouais. reste une thérapie brève
oui,
aussi.
De toute façon, oui.
D'accord. Ouais. Est-ce que l'hypnose a une action sur le sommeil ou les défenses immunitaires ?
Oui, mais de façon indirecte. Hein. C'est-à-dire que le sommeil peut être perturbé par des processus psychiques inconscients. Hein, ça peut être des angoisses, ça peut être des choses pas réglées qui tournent dans la tête et qui réveillent la nuit parce qu'ils provoquent une émotion trop forte. Donc on va agir là-dessus. C'est-à-dire que je n'agis pas directement sur le sommeil, mais la cause de l'insomnie. Voilà.
Alors, le troisième champ d'application, ce sont les addictions. Oui. Sur quel type d'addiction l'hypnose a-t-elle un effet ?
A priori, sur toutes, sauf qu'il y a des limites qui sont le manque physique. Hein. Alors, par exemple, pour le tabac, c'est très facile. En général, une séance suffit, 80% des cas.
Là, vous dites devant toute la salle que pour le tabac, c'est très facile d'arrêter.
Pas besoin sous de hypnose, patch. Avec l'hypnose. Tout seul, non, c'est très dur, mais avec l'hypnose, c'est très facile.
Combien de séances ?
Une séance en général.
Une seule séance aussi ?
Oui. Des fois deux, très rarement trois, mais voilà. En général, une, ça suffit. Oui, oui, ça marche. Il y a des gens qui viennent... J'ai travaillé une époque en Ardèche. Je me suis fait une telle réputation là-bas qu'il y a des gens qui viennent d'Ardèche, ici, à Montpellier, pour arrêter de fumer. Bon, et ça marche très bien. Ils sont très contents. Et
bon, voilà. À bon entendeur, alors.
Le tabac, c'est relativement facile parce que la dépendance physique n'est pas très forte. C'est pénible, mais c'est supportable.
Pour l'alcool ?
Et pour l'alcool, c'est autre chose, parce que quelqu'un qui en manque d'alcool, il peut faire un délirium très mince, il peut faire un coma, c'est épouvantable. Hein. Il transpire, il a des suées, il ne dort plus, il est malade, c'est épouvantable. Donc, je demande aux alcooliques, effectivement, de faire une cure de désintoxication sous contrôle médical, mais à la fin de la thérapie. La thérapie va se baser sur pourquoi la personne s'est mise à boire et pourquoi elle continue à boire.
Comment ça, à la fin de la thérapie ? Vous intervenez à la fin du sevrage ? C'est ce que vous voulez dire ? Vous demandez à la personne qui est alcoolique qu'elle soit sevrée d'abord, physiologiquement ?
Non, elle se sèvre à la fin. Elle fait le sevrage à la fin de la thérapie.
Ah, elle vient vous voir d'abord ?
Oui. D'accord. On travaille sur toutes les causes psychologiques qui l'ont poussée à boire. Et quand on a fait suffisamment de travail suffisamment important pour qu'elle puisse ne plus avoir envie de boire, je leur demande de faire un sevrage.
D'accord, voilà. Le sevrage. Et là, pareil, c'est une dizaine de séances ou un petit peu plus quand même ?
C'est variable suivant les individus, ouais. Oui. D'accord. Entre 5 et 10.
Y a-t-il d'autres addictions auxquelles vous pensez ?
Oh, y a toutes sortes d'addictions, parce qu'il y a par exemple la boulimie, qui est une forme d'addiction. Hein, parce que des gens qui mangent pour compenser un mal-être. Mm-hmm. Hein, c'est la même chose. Toutes les formes d'addiction sont une forme de fuite ou de compensation. Il y a quelque chose qui ne va pas, on ne se sent pas bien, et donc on essaie de trouver un moyen d'aller mieux. Par exemple, la cigarette, c'est un très bon antidépresseur, par exemple. Hein. Ça, on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils arrêtent de fumer tout seuls, font une dépression. Mais ce n'est pas la cigarette qui a provoqué la dépression. La dépression était là avant. La cigarette cache la dépression.
On revient vous voir pour la dépression. Après.
Non, en général, je le détecte avant et on traite d'abord la dépression. Et je leur dis, quand vous serez sorti de cette dépression, on pourra arrêter de fumer très facilement.
Très bien. Alors, le dernier champ d'application de l'hypnose, c'est le développement personnel.
Oui.
Quelles actions vous avez quoi comme type de patient sur ce champ-là ?
Alors, par exemple, des gens qui veulent changer de vie. Voilà, ils ont 45 ans, ils ont envie de changer de vie, ils ont eu des enfants, les enfants sont grands, ils sont partis, ils ont envie de s'occuper d'eux, mais ils n'osent pas. Voilà, il y a eu tellement d'habitudes, de contraintes qu'ils n'osent pas passer le pas. Donc ils ont besoin de reprendre confiance en eux. C'est une question de confiance. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont simplement un manque de confiance ou un manque d'estime qui les bloque. Et qui les empêchent d'agir, de faire ce qu'ils ont envie, d'être heureux, tout simplement.
Donc c'est principalement sur la confiance en soi.
Énormément, énormément.
Le stress peut-être ou
le stress aussi, bien
les
sûr.
Prises de parole en public, des ça gens qui doivent
aussi.
Intervenir,
oui,
des choses comme ça.
Oui, tout à fait, oui, 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 tout à fait, oui.
Et là, c'est au niveau des séances aussi, l'effet c'est assez immédiat, les résultats.
Alors ça dépend des personnes, parce qu'il faut comprendre d'où ça vient. Et puis, il faut trouver la façon de corriger la chose. Le manque de confiance en soi, ça peut être lié à toute une éducation. Hein, ça peut être lié aux relations avec les parents, aux enseignants, au contexte familial, ou à l'état de choses. C'est pas forcément un événement, c'est pas un traumatisme, c'est pas comme une phobie où on a quelque chose de simple, de bien précis. Non, c'est beaucoup plus long. Donc il faut travailler sur beaucoup de choses et ça peut prendre du temps. Mais ce que je fais dans ce cas-là, c'est qu'une fois qu'on a traité les plus grosses parties, j'apprends à mes patients à faire de l'auto-hypnose. Et je leur apprends les techniques et je leur dis de continuer par eux-mêmes.
Alors, est-ce que, justement, ces traitements, une fois qu'ils sont effectués, est-ce qu'ils sont définitifs ? Est-ce qu'il peut y avoir des rechutes ? Je pense, par exemple, justement, au tabac, à l'alcool, même la dépression. Est-ce que l'outil est puissant, a priori, mais est-ce qu'il est définitif ?
L'outil est puissant, les changements qui sont faits sont définitifs, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres problèmes. Hein. Vous avez une dépression, peut-être, parce que vous êtes particulièrement sensible. On va guérir cette dépression et on va supprimer le processus qui vous empêchait d'en sortir, très bien, mais vous allez avoir un autre problème et vous allez retomber en dépression pour autre chose. C'est possible. Ça ne vous fait pas de vous un surhomme ou une surfemme. Hein, ça guérit un problème, mais ça ne guérit pas tous les problèmes qui peuvent arriver dans le futur.
Bon, cet outil est puissant, mais c'est quand même pas un outil miracle non plus. Quelles sont les limites de l'hypnose ?
Alors, eh bien, les limites sont d'abord qu'on ne traite que des aspects psychologiques. S'il y a un problème neurologique, par exemple, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On peut aider la personne à apprendre, etc. Mais ça se limite à ça. Donc, d'abord, des problèmes psychologiques. Et puis, il faut aussi que la personne soit volontaire, hein, qu'elle ait envie de le faire. Et puis, c'est les limites qu'on a de connaissance du fonctionnement de l'esprit.
Alors, justement, les limites, quelque part, on peut dire qu'on est qu'au balbutiement, finalement, de l'hypnose aussi. Ça a été découvert, on l'a dit, étudié en tout cas scientifiquement que depuis le début du XVIIIe siècle. Est-ce que vous pensez qu'on est qu'au balbutiement de l'hypnose et qu'on peut découvrir encore beaucoup de choses ?
Oui, oui, je pense qu'on a... Pas forcément sur l'hypnose, bien qu'on a encore beaucoup à comprendre sur les fonctionnements neurologiques, hein, du cerveau et l'état d'hypnose en particulier. Mm-hmm. Ça, il y a encore tellement de choses à découvrir. On est vraiment juste au début. Ensuite, c'est plus la psychologie, la psychothérapie. Et c'est vrai que l'hypnose est un outil très puissant. Ça permet de comprendre aussi comment fonctionne l'esprit humain. Et d'ailleurs, l'hypnose est très souvent utilisée dans des études de psychologie pour comprendre ce qui se passe. Hein ? Alors, il faut savoir que l'hypnose est reconnue en France depuis 2013, mais aux États-Unis depuis 1958.
Alors, reconnue en France par l'Académie de médecine,
je précise. Par l'Académie de médecine, dans un contexte très limité. Alors qu'aux États-Unis, c'est reconnu depuis 1958. Et donc, ils ont fait énormément d'études.
1958, donc depuis près de 60 ans.
Voilà, on a 60 ans de retard à peu près sur le monde anglo-saxon. Et par exemple, sur une base de données qui s'appelle PubMed, qui est une base de données américaine de médecine, de recherche, hein, on peut trouver plus de 13 000 études scientifiques sur l'hypnose ou avec l'hypnose. Mm-hmm. En France, on doit en avoir une petite dizaine. Quoi.
D'accord. Donc, vous, pour terminer, vous l'avez évoqué, vous avez parlé d'auto-hypnose.
Oui.
Donc, en fait, on rentre naturellement dans la journée en état d'hypnose, mais aussi on peut le faire volontairement.
Tout à fait.
Alors, absolument. À quoi il sert le thérapeute, du coup ?
Le thérapeute sert à apprendre au patient comment faire.
Comment faire rentrer sous hypnose ?
Un, comment rentrer dans l'état d'hypnose, mais ça, c'est relativement facile. Mais deux, une fois que vous y êtes, vous faites quoi ? Comment vous traitez votre problème ? Ça ne s'invente pas.
Hein, donc le thérapeute est un guide.
Le thérapeute est un guide. Oui.
Et c'est le patient qui fait tout le boulot.
Absolument, c'est lui qui fait tout le boulot. Oui, oui. C'est comme l'entraîneur. Hein. Je suis sur la bonne touche et puis je dis allez courez, sautez, faites ceci, faites cela. Je suis un coach. Voilà, le coach de l'inconscient.
Merci beaucoup Christophe Chaumet. Nous allons passer aux questions du public.
Bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir si quand on n'est ni médecin ni psychologue, on peut se former à l'hypnose ou un endroit sérieux.
Alors, c'est une bonne question.
Merci.
Oui, alors, tout le monde peut apprendre à faire de l'hypnose dans le sens où tout le monde peut apprendre à guider quelqu'un dans l'état d'hypnose. Ensuite, tout dépend de ce qu'on va en faire. Dans le milieu médical, on l'utilise beaucoup pour les anesthésies, pour les traitements de la douleur, pour calmer les gens, pour les rassurer, etc. Donc là, effectivement, les infirmières, les aides-soignantes peuvent se former à l'hypnose, et il y en a beaucoup qui s'y mettent maintenant. C'est très utile. En dehors de ça, quand il s'agit de faire la psychothérapie, c'est un petit peu plus délicat, parce que c'est quand même quelque chose de difficile, et il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'esprit des gens. Donc, il vaut mieux quand même avoir un certain bagage et bien étudier les choses avant de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors, en ce qui concerne les formations, ça se fait dans des écoles. Il y en a de plus en plus. Trouver les bonnes des autres, c'est un peu difficile. C'est une question de goût et de choix.
Est-ce que vous en auriez une ?
Non, je ne vais pas en donner une. Je ne vais pas faire de la publicité.
D'accord.
Je vais pas...
Merci.
Oui, bonsoir. Est-ce que les personnes qui sont psychotiques et à la limite peuvent faire une thérapie par l'hypnose ou pas ?
Ça dépend des cas.
Ça dépend des cas.
Ça dépend des cas, tout à fait. Je sais qu'Erickson a traité des psychotiques, hein, qui étaient psychiatriques, hein, des psychiatriques, des gens assez sévèrement atteints, si je puis dire, hein, et avec succès. Moi-même, j'en ai jamais fait. J'ai eu une fois un déficient mental, hein, quelqu'un qui avait à 40 ans l'esprit d'un enfant de 8 ans, et ça a très bien marché. Voilà, donc je ne peux pas vous dire de façon systématique.
Et c'est pas une contre-indication, parce que j'avais entendu ça.
Est-ce qu'il y a des contre-indications en hypnose, justement ?
Non, il n'y a pas de contre-indication. Au pire, ça ne marche pas et c'est tout.
Alors, une autre question ?
On va pas. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander si un patient vient pour l'arrêt du tabac et que ça ne marche pas, qu'est-ce que vous en déduisez ?
J'en déduis que j'ai raté quelque chose. Qu'il y a quelque chose dans l'esprit du patient qui le pousse à fumer et que je ne l'ai pas trouvé. Voilà ce que j'en déduis.
Parce que j'ai vécu cette expérience.
Voilà. L'expérience après, il y a une chose qui est importante.
Sous hypnose ericksonienne.
Sous hypnose, d'accord.
Une chose qui est importante à comprendre, c'est que l'hypnose n'est qu'un outil. C'est comme d'accord. Le bistouri du chirurgien. Le bistouri sert à ouvrir le corps et on va travailler ensuite.
Donc c'est pas
l'hypnose, c'est pareil. C'est un outil qui permet d'accéder à l'inconscient. Mais après, tout dépend du praticien. Comment il va opérer, comment il va agir, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes pratiques et les mêmes façons de faire.
Oui, donc il ne faut pas non plus
faut pas généraliser.
Faire croire qu'en une séance, voilà, l'affaire est close.
Moi, je vous parle de ma propre expérience, je ne parle pas des autres.
Est-ce que vous, Christophe Chaumet, en une séance ou deux, vous avez les personnes qui sont venues vous voir pour le tabac ont toutes arrêté de fumer ?
Non, pas toutes. Non, pas toutes. Je vous dis 80%.
80%.
C'est quand même un bon pourcentage.
D'accord. Oui.
Certaines ont tenu un certain temps en reprise, sont revenues me voir. Et il leur a fallu un certain temps, effectivement, pour arrêter définitivement, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient cachées, qu'eux-mêmes ne savaient pas, et moi non plus. Et puis, il y en a qui n'avaient pas vraiment envie d'arrêter. Qui étaient venus parce qu'il fallait le faire, parce que leur femme les poussait, ou parce que, etc. Mais il faut quand même avoir l'envie de le faire. Il faut vraiment qu'il y ait la volonté d'arrêter et de ne pas y arriver.
Une autre question ?
Oui, bonsoir. Vous dites que tout le monde peut rentrer sous hypnose, mais il y a forcément des gens qui sont réfractaires à ce genre de pratique. Et dans ce cas, est-ce que vous avez des moyens efficaces pour faire rentrer quand même les personnes sous hypnose, même si elles sont plutôt sceptiques, et qu'elles veulent quand même tenter l'expérience ?
Alors, réfractaire, non, ça n'existe pas. Sceptique, oui, bien sûr. Il faut quand même avoir envie de rentrer dans l'état d'hypnose. Il faut être volontaire pour le faire. Si vous voulez résister, vous pouvez le faire, c'est très facile. Hein, c'est comme s'empêcher de dormir. Si vous avez envie de passer une nuit blanche, c'est très facile aussi. Hein. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez envie, que vous collaborez, vous allez y réussir. Après, il faut peut-être trouver la technique qui va vous correspondre à vous, hein, celle qui va vous aller. Hein, parce que toutes les techniques ne marchent pas avec tout le monde.
Est-ce que Christophe Chaumet voulait dire par là que comme le patient garde le contrôle, s'il a décidé de ne pas rentrer sous hypnose, il ne rentrera pas sous hypnose ?
Absolument, c'est très facile.
Une autre question ?
Alors,
attendez, je vais d'abord, parce qu'il n'y a pas de micro, donc on demande le prix de la séance. Et est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale ?
Malheureusement, ce n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, et c'est bien dommage. Effectivement, on va plutôt rembourser des médicaments plutôt que rembourser une thérapie. Et c'est très, très dommage. On pourrait faire beaucoup d'économies en remboursant les thérapies efficaces, hein, une fois qu'on a effectivement défini ce qu'était une thérapie efficace. Donc, combien ça coûte ? Ça dépend des praticiens. Ça va entre 40 et 100 euros la séance.
Les prix sont libres ?
C'est complètement libre. Il n'y a pas de réglementation.
Bonsoir. Quelle est la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose caïcédienne ?
Je n'ai pas compris le deuxième terme.
Caïcédienne, caïcédo.
Je ne connais pas. Ah, on me dit que c'est de la sophrologie. Voilà, quelqu'un qui connaît, là. Bah oui. Alors, la sophrologie, c'est un sous-produit de l'hypnose. Ce sont un ensemble de techniques qui ont été extraites de l'hypnose, modifiées, adaptées, etc. Et qui n'ont pas le même but. Hein, c'est pas du tout le même but avec l'hypnose. En hypnothérapie, c'est vraiment de la thérapie. C'est soigner quelqu'un qui a un trouble. La sophrologie, c'est un peu différent. Je ne connais pas trop, donc je n'en parlerai pas.
Une autre question ?
Pour quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise, qui a vraiment envie d'évoluer dans un domaine qui lui est important pour elle, mais qui ne sait pas lâcher prise, qui est constamment sous contrôle, oui. Est-ce que y a pas, en une séance d'hypnose, une difficulté, justement, parce qu'il faut lâcher prise, j'imagine, dans une séance d'hypnose.
C'est mieux, effectivement.
Mais si on n'y arrive pas.
Alors, je vais lui apprendre à lâcher prise. Il y a des techniques pour ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, Erickson était très très fort et il était capable de mettre n'importe qui, dans, même des gens très résistants qui ne voulaient pas rentrer dans l'hypnose, il était capable de le faire, mais c'est peut-être le seul. Hein. Il avait des tas de trucs. Donc, quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise, qui est sous tension, dans le contrôle, etc., on arrive quand même à le faire rentrer dans l'état d'hypnose. Ça prend plus de temps. Il faut parfois 2 ou 3 séances pour que la personne s'habitue, se sente plus en confiance. Et ça finit par venir.
Merci.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé dans votre introduction des risques de l'hypnose. Alors, y a-t-il des risques de la pratique de l'hypnose pour le patient ?
Des risques. Alors, votre question, c'est est-ce qu'il y a des risques spécifiques à l'hypnose ? Parce que sinon, dans toute communication interhumaine, il y a des risques. Hein. La manipulation, c'est quelque chose qui existe et qui n'a rien à voir avec l'hypnose. Donc on peut se faire manipuler. L'hypnose n'a rien apporté de plus dans ce domaine. Le risque, c'est effectivement qu'une personne qui a des croyances un peu bizarre, qui ne soit pas un vrai thérapeute, mettre dans l'esprit de la personne des croyances délirantes. Hein. Ça, c'est possible. C'est possible.
C'est-à-dire
du genre que son problème est forcément lié à un abus sexuel dans son enfance. Alors que la personne n'a aucun souvenir d'abus sexuel et que même en cherchant dans son inconscient, il n'y a rien. Et le thérapeute va insister et va finir par mettre en place un faux souvenir. Ça, c'est un risque, effectivement. Donc, il faut vraiment être sûr d'avoir un vrai thérapeute qui soit neutre, hein, qui ne soit pas un gourou qui est là pour dire « Vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez penser comme ci, et la cause de tous vos problèmes, c'est ça. » Non. Ça doit venir du patient.
Donc,
tout est dans l'esprit du patient. On va chercher ce qu'il y a dedans et on soigne ce qu'il y a dedans. Mais on ne va pas y mettre des choses qui n'ont rien à y faire.
Le risque principal, du coup, que vous voyez, ce serait d'induire un schéma négatif.
Par exemple.
Oui, bonjour. J'aimerais savoir, lorsque vous faites ressurgir de l'inconscient d'un patient des souvenirs, lorsqu'il revient dans le monde conscient, est-ce qu'il a toujours le souvenir de ce que vous avez fait ressurgir ?
En général, oui. Oui, mais il le perçoit d'une façon différente. Hein, c'est le but. C'est-à-dire que le souvenir, il est là, il est présent. Il peut ne plus y penser aussi bien, hein, parce qu'il a fait un travail dessus justement pour le faire oublier. Il existe, mais il n'y accède plus. Ça sert à rien. Alors, sauf s'il est masochiste, évidemment, et qu'il a envie de se faire du mal. Mais sinon, a priori, il n'a pas envie de retrouver la chose. Donc, le souvenir est revenu. S'il veut s'en souvenir, il peut s'en souvenir. Mais en général, si c'est un souvenir négatif, on va faire en sorte qu'il n'y accède plus. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Christophe Chaumet d'être venu parler de l'hypnose et de nous avoir apporté votre éclairage sur le sujet. Merci aux Gazettes Café, au public et à nos 2 auditeurs de votre fidélité.
Merci à vous.